Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Eh bien, monsieur Philvitt, je vous ai dit de danser avec moi.
Oh, voyons, ma toute belle, mais...
Dépêchez-vous. Et vous, monsieur Bouffe, occupez-vous de la musique.
Bonjour Jean-Christophe Keck.
Bonjour.
Alors, musicologue, chef d'orchestre, ténor, compositeur, directeur de label, directeur musical, journaliste, producteur, conseiller artistique, enseignant, etc. Quand vous êtes coincé dans un ascenseur et que le réparateur vient pas tout de suite et que vous êtes avec quelqu'un dans l'ascenseur, et au bout d'un moment, vous sympathisez, il vous demande « mais vous faites quoi dans la vie ?» Vous lui répondez quoi ?
Je sais jamais quoi répondre, en plus c'est vrai. Comme je suis quand même assez modeste de nature, j'y suis musicien. Voilà, donc c'est très très vague. Et quand je vais chez mon coiffeur, par exemple, je dis non, je travaille dans un bureau. Comme ça, on m'emmerde pas pendant deux heures pour que j'ai pas à dire exactement tout ce que je suis. Mais en même temps, bon, et c'est vrai que c'est amusant parce que vous me rappelez un peu ce que je suis.
Vous en aviez oublié certains.
Ben, j'en ai oublié certains, oui, ça c'est clair. Mais et quand j'étais au conservatoire encore, j'avais déjà cette manie de faire beaucoup de choses. On me le reprochait passablement, on me disait oui, tu te disperses. Ça, c'est le mot que j'ai entendu toute ma vie. Et quand je suis allé travailler en Allemagne, on m'a dit ah, vous êtes un artiste complet. Je me suis dit, tiens, ça, c'est quand même une autre mentalité, quoi.
C'est la même chose, finalement, tout ça, tout ce que j'ai cité, au bout
ben
du
oui.
compte.
Oui, alors ce que je pourrais dire, par contre, pour résumer, c'est que je suis un Offenbachien, voilà.
Oui, ça, j'ai pas encore cité le mot...
Offenbachologue. Voilà. Mais voilà. Bon, parce que finalement, tout ça se regroupe. Mmh. Bon, j'ai pas du tout de frontières, hein, je veux dire, Offenbach est ma passion et mon métier aussi, tout tourne autour de lui, mais il n'empêche que mes goûts personnels vont bien au-delà de la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique du 21e siècle, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que tout ce que je fais... Bah, et guidé, je dirais, par cette spécialité qui est celle d'Offenbach que j'entretiens depuis l'âge de 15 ans. Donc voilà.
Alors justement, bah, la question obligatoire, c'est comment a commencé l'histoire d'amour ? Vous êtes rencontré où ? Dans un bar avec Offenbach ?
Non, à la SFP, tout simplement, je dirais à la télé chez moi, parce que j'avais une quinzaine d'années et je suis tombé sur la série tournée
Michel Boiron,
par Michel Serrault. Voilà, Michel exactement. Serrault, ouais. Et pour moi, ça a été l'électrochoc. Alors, tout de suite,
C'était juste avant, justement, cet électrochoc, votre rapport à la musique, c'était quoi ? C'était quoi vos goûts, vos...
Ah, c'était d'abord de la musique. On va dire, ma découverte quand même de la musique, c'est Julien Clerc, pour moi, à l'âge de 5 ans, par là. Mes parents me disaient que toujours, depuis que j'étais gamin, depuis l'âge de 2 ans, je faisais tourner des casseroles en disant « ça, c'est un tourne-disque ». Donc, j'avais quand même une obsession déjà du disque et de la musique depuis l'âge de 2 ans. Et quand j'ai entendu « Les fleurs des gares », de Julien Clerc et Sonner rien. Je crois que les arrangements de Jean-Claude Petit pour moi ont été une espèce de puis la voix de Julien Clerc.
Révélation.
Je parle pas du texte parce que à 5 ans, je suis pas sûr que je comprenais grand-chose. D'ailleurs, beaucoup de gens comprennent pas les textes de Julien Clerc de Rodagil même très très tardivement. Mais oui, ça a été une révélation. Et puis après, vous savez, j'habitais dans une petite province perdue, Briançon dans les Hautes-Alpes, c'est un peu le bout du monde. Hein. Mmh. Ça l'est toujours d'ailleurs malheureusement parce qu'on a un gros problème de communication. Et là, il y avait une harmonie municipale, donc j'ai adhéré à l'harmonie municipale, je suis rentré là. Et puis voilà, et puis après j'ai fait du piano, et donc je me suis passionné pour la musique dite classique. Et puis de fil en aiguille, ben je vous dis, je suis arrivé donc sur cette série Offenbachienne. Alors je me suis dit, ah ben tiens, j'aime l'opéra, parce que je me suis dit, ça chantait, alors c'est chanté. Puis en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas vraiment l'opéra que j'aime, c'est peut-être l'opérette. Et puis bon, ça s'est resserré de plus en plus, et finalement j'ai trouvé dans la discothèque de mon père, un disque qui m'avait toujours rejeté, écœuré, parce que la pochette était horrible. Mmh. Et c'était une belle Hélène, justement. Et là, je me suis dit, oh, ben, je vais écouter ça. Et là, ça a été la grande révélation.
Alors, vous vous souvenez de la version ?
Ah oui, Leibowitz. Ouais. C'était une version de la Guilde internationale du disque. C'était des extraits, d'ailleurs. Ça crachait, ça craquait dans tous les sens. Mais j'ai gardé une une tendresse pour ce disque inouï, puisque c'est ma découverte. Ensuite, j'ai découvert, il y avait un petit marchand de disques quand même dans ma ville, donc j'ai découvert les Contes d'Hoffmann, version Pierre-Michel Lecomte, avec Léopold Simoneau, Pierrette Alary, enfin.
Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une sorte, vous étiez un peu genre monomaniaque, c'est-à-dire que c'était Offenbach et rien d'autre, vous êtes tout de suite engouffré dans cette brèche et voulant essayer de découvrir toutes les œuvres, ou
oui.
C'était en plus...
Non, j'avoue que oui.
Non, tout de suite.
Oui. J'avoue que oui, tout à fait. C'est-à-dire, bon... Moi, je dirais que je suis d'une nature passionnée. Donc, quand on est passionné, j'ai pas une passion pour Offenbach, une passion, parce que j'ai d'autres passions, Marcel Pagnol, les mines de charbon, des choses comme ça. Mais je veux dire, quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc, Offenbach, c'était à fond. Alors, pendant ce temps-là, je négligeais un peu le reste, évidemment. Mais, alors, j'ai commencé à chercher des partitions, enfin... Des partitions, une partition, vous imaginez bien, à 15 ans en plus, à l'époque, je n'avais pas le sou. Donc, j'ai trouvé la partition de la Belle Hélène, le livret de la Belle Hélène. Et puis après, donc, je suis entré en fac, j'ai fait le conservatoire à Aix, à Marseille, puis à Paris. Et là, je me suis un petit peu écarté d'Offenbach à un moment, parce que mes études me demandaient d'aller un peu vers ailleurs. Alors, je me suis beaucoup intéressé à Fauré à cette époque, je me rappelle, c'était mon grand truc. Et puis je suis revenu au Bercail, vers l'âge de 22-23 ans par là. Et là, j'ai eu envie de transformer cette passion en mon métier, tout simplement. Donc, c'est parti de la création d'une association, la Société des Amis de Jacques Offenbach, puis plein de choses comme ça, des tas de projets qui malheureusement...
Cette édition aussi.
Voilà, mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, l'édition, alors c'est en 93 ou 91, non, 91, ça c'est vraiment par hasard, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout éditeur à la base. Je suis musicologue aussi, je dirais, autodidacte, c'est-à-dire je n'ai pas fait de classe de musicologie, j'ai fait des classes d'histoire de la musique, de composition, de choses comme ça, enfin des classes d'écriture, mais musicologie, pas vraiment. Et je traînais chez un éditeur à la recherche de partitions d'Offenbach, et j'entends dire, ah ben tiens, l'Opéra de Lyon veut faire une édition de la vie parisienne, mais on n'a pas, ça n'existe pas l'édition avec tout complet. Et j'ai dit au gars, ben moi je vais le faire. Si vous voulez bien, je vous la fais cette édition. C'était complètement fou parce que c'était le début de l'informatique musicale, où j'avais un mauvais Atari. Et je me suis lancé dans un truc, mais j'ai passé, sans mentir, 3 mois, puisque j'avais des délais très courts, 3 mois, nuit et jour, à faire cette édition. C'était la folie. Et au Fraissiné, là-haut, dans mes montagnes, à côté de Briançon. Et le résultat était, quand j'y pense, calamiteux au niveau graphique. En tout cas, l'Opéra de Lyon a quand même joué sur ce truc-là, avec des tournes de pages que j'ai été obligé d'aller refaire en dernière minute. Enfin, je me suis improvisé éditeur. Et je me suis dit, plus jamais ça. C'est un travail qui n'est pas très, très rigolo. En plus, vous voyez, dès le début, les metteurs en scène ont massacré mon travail. Ouais. Metteurs en scène et parfois les chefs d'orchestre, malheureusement. Et donc, je me suis dit, non, mais c'est un travail de masochisme. Vous vous bossez, puis après, on vous démolit tout, ça ne va pas du tout, j'arrête tout de suite. Et puis malheureusement, non, de fil en aiguille, il y a eu d'autres projets qui se sont présentés, d'autres choses. Du coup, j'ai continué à faire d'autres éditions. Quand j'ai vu que, bon, il y avait vraiment un intérêt à faire ces éditions, puisque à un moment, je me suis dit, mais tout ce qu'on fait comme concert, c'est éphémère, je veux dire, ça ne reste pas. Alors que lorsqu'on fait un disque... Ou une édition, ça, ce sont des choses qui restent. Donc, c'est ce qui est le plus important, c'est les enregistrements et c'est le support pour faire un enregistrement. Sans édition, on n'a pas de support. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose de A à Z. C'est-à-dire que je parte, je fais la partition et jusqu'au bout, si je peux, si j'ai les moyens de le faire, j'enregistre ce que je viens de faire. Et donc, j'ai proposé après à différents éditeurs en France un projet d'édition intégrale de la musique d'Offenbach, qui est un projet énorme. Et puis, les portes se sont fermées très facilement. Après, je suis allé en Allemagne. On m'a fermé les portes de partout. Parce qu'en fait, les gens avaient une espèce d'obsession, c'était de faire les Contes d'Hoffmann. Mais alors bon, si je commence à développer là-dessus, on en a pour des heures. Parce que je travaillais sur les Contes d'Hoffmann. J'avais des sources que personne n'avait à l'époque. J'avais trouvé des choses. Et donc, il y avait une obsession de faire cet opéra, parce que c'est l'opéra le plus joué au monde, un des opéras le plus joué au monde, et surtout qui rapporte le plus d'argent aux éditeurs. Donc, eux, ce qu'ils voyaient, c'était surtout ça. Alors, ils me disaient, ah, bon, on veut bien faire les Contes d'Hoffmann, mais le reste, ça ne nous intéresse pas. Et donc, des grandes maisons, Bärenreiter, Schott, ont eu ce genre de réflexion, et c'était bien regrettable, d'ailleurs. Et jusqu'au moment où je suis tombé sur un gars, une équipe très jeune, qui venait de se renouveler, c'était la maison Bousey & Hawkes, une multinationale, donc, qui venait de racheter la maison Bottebock en Allemagne. Et Bottebock, c'était l'éditeur originel d'Offenbach en Allemagne. Et eux, ils ont été emballés par le projet. Et ça y est, c'est une histoire d'amour, je dirais, qui dure depuis 15 ans et qui a eu pour enfant déjà une cinquantaine d'œuvres éditées, quoi. Thank you.
dans l'engrenage en général. Vous avez dit, moi, quand je fais quelque chose, je suis passionné, j'y vais à fond. On s'intéresse aussi parfois à est-ce qu'il y en a d'autres aux quatre coins du monde qui ont la même passion que moi. Est-ce que, bon, j'imagine que depuis étant une référence, il y a des gens qui viennent à vous,
évidemment,
facilement aux quatre coins du monde, j'imagine, du Japon au fond de l'Argentine, sans doute, peut-être, je ne sais pas.
Oui,
voilà.
Incroyable.
Est-ce qu'au début, justement, vous êtes. Quelle était un peu la situation, l'état des Offenbachiens aux quatre coins du monde? Est-ce que vous avez trouvé des sortes de fous furieux d'Offenbach comme vous, quelque part?
La
communauté était comment?
La communauté était bizarre, je dirais, et elle le reste. Je me suis toujours posé des questions, que ce soit Wagner ou Offenbach, suscite des espèces de passion, mais troubles, hein, parfois. Et j'ai fréquenté des gens pas toujours bien clairs, je dirais, et surtout des collectionneurs furieux, qui en fait collectionnaient, mais pas pour un plaisir très très égoïste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de but musicologique, de but de partage derrière, c'était le but d'entasser chez soi des choses, et surtout que les autres ne les voient pas. On ne partageait pas. Et donc je suis tombé avec des gens comme ça, et c'est difficile quand on a 18 ans d'affronter ce genre de personnes. Et puis, je dirais, ça s'est décanté. Parce qu'en plus, bon, ben, comme j'étais jeune, les jeunes, on n'y croit pas aux jeunes, quoi. C'est-à-dire, c'est tous des vieux barbons et, qui se disaient, oh, ben, celui-là, le petit qui joue dans sa petite cour. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait mon boulot, quoi, je dirais tout simplement, eh ben, bon, ben, ces gens ont commencé à s'incliner parce que beaucoup de ces collectionneurs, beaucoup de ces passionnés n'avaient aucune formation musicale. Donc, eux, ils aimaient ça, oui, mais il n'y avait pas ils n'avaient pas la technique, je dirais, pour l'utiliser. Donc, au fur et à mesure, ben, quand j'ai fondé cette édition, ben, ce sont eux qui sont devenus mes collaborateurs. Et pas vice-versa, quoi. Donc, je dirais, il y a de tout. Malheureusement, je rencontre beaucoup de faux passionnés aussi. Moi, j'ai des tas de gens qui me disent « Ah, j'adore Offenbach !» Je dis « Oui, vous en connaissez quoi ?» Et c'est fou, ça. Et on trouve beaucoup ça...
Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, c'est peut-être aussi pour ça.
Mais même, je veux dire, quand on me dit « Mais moi, je suis un fan d'Offenbach », on connaît quand même un peu la moindre des choses, c'est de s'intéresser un peu. Il y a des gens qui sont très, très fans, mais c'est superficiel, je dirais. Voilà.
La partie Sherlock Holmes, Indiana Jones de ce travail de pièces rares, etc. C'est pareil, c'est venu aussi assez rapidement. C'est rapidement, vous avez essayé de chercher des choses. Comment tout ça s'est construit? Qu'est-ce qu'il y avait à disposition? Comment vous avez avancé par rapport à cet aspect de votre profession?
Ben, je dirais que j'ai le côté archéologique, j'ai dans le sang. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je suis passionné par les mines de charbon. Donc tout ce qui est exploration souterraine et choses comme ça. Et c'est un peu lié à ça d'ailleurs. Donc très rapidement, pour faire ma propre collection, je veux dire, j'ai cherché des choses quand j'avais 15-20 ans.
Tout votre argent de poche y passait?
Ah, évidemment. Évidemment. Et même celui que j'avais pas, je me suis endetté des fois de façon énorme. Et puis, quand j'ai commencé à faire mon métier d'éditeur, j'ai cherché des sources, mais alors là, c'était des sources de premier ordre, c'est-à-dire des manuscrits. Et là, c'est plus la même affaire, je dirais. C'est pas des centaines ou des milliers de francs, hein, c'est autre chose. Et ça a été autant quelque chose de magnifique de chercher ces manuscrits que quelque chose de très douloureux. Parce que quand on se trouve avec des moyens maigres, je dirais, face à des trésors, qu'on ne peut pas les acquérir, que des gens, par exemple, y a des gens qui sont très intéressés, qui ont des manuscrits et qui veulent en tirer de l'argent et veulent pas vous les montrer, alors que moi, je demandais simplement à voir des manuscrits pour pouvoir travailler avec, pas les acheter. Donc j'ai été obligé des fois de m'endetter, comme je vous disais, pour acheter des pièces, des manuscrits, pour pouvoir les éditer tout simplement.
Vous n'avez pas trouvé de mécène qui a voulu vous épauler au début dans votre aventure?
Si. J'ai trouvé au fur et à mesure du temps des gens qui m'ont prêté en tout cas, mais qui ont
pu... Qui vous ont aidé dans votre démarche.
Oui, tout à fait, oui, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu un gars là qui était super, qui s'appelait Yves Joss, qui avait fait des grandes, grandes choses. Et puis malheureusement, la maladie l'a emporté très jeune. Et c'est dommage parce qu'on avait vraiment commencé un super boulot ensemble. Et puis, je dirais, mais même mon éditeur actuel, Bouzet & Ox, quand j'ai fait la folie d'acheter le final des Contes d'Hoffmann à Drouot, quand même une pièce qui a été vendue 180 000 euros, ce qui n'est pas rien, quoi, pour 24 pages. Eh bien, ça, c'est une histoire. Bon, je pourrais vous raconter ça pendant des heures, parce que je n'avais pas un centime pour acheter ça. Et je suis sorti de la salle en pleurant, en me disant, mais comment je vais faire avec mon manuscrit sous le bras, dans un sac Fnac, parce que je n'avais même pas prévu. Et là, j'ai téléphoné à ma petite banque à Briançon, Crédit Lyonnais. Ils m'ont dit, oui, on va vous aider. Puis surtout, j'ai appelé mon éditeur. Mon éditeur m'a fait un prêt sans intérêt, quoi. Je veux dire, a vraiment été... très super, quoi.
À l'époque, encore de l'argent de poche, c'était quoi votre premier Graal que vous vous êtes offert? Là, vraiment, la première partition, le premier objet, je sais pas, la première chose vraiment où vous aviez l'impression d'avoir vraiment...
Alors,
acheter un trésor.
Le tout premier, c'était ma partition de La Belle Hélène. Mmh. Ma partition, mais une partition rééditée qui n'a aucune valeur. Mais je l'ai toujours d'ailleurs. Et j'écrivais beaucoup de choses dessus. Je faisais des découpages, des trucs incroyables. Ça a été le tout premier. Et puis juste après, il y a eu une partition de Fantasio qui était une partition d'époque. Et alors ça, pour moi, c'était un Graal. Et puis alors, le côté fétichiste, je suis allé voir la tombe d'Offenbach quand j'avais 17 ans, par là. Et là, il y avait un petit morceau de la tombe qui se décrochait. Et j'avoue, je l'ai pris. J'ai gardé toujours ce morceau. Bon, ça, c'est autre chose.
Alors là, c'était un peu l'aspect, j'allais dire, archéologique, musicologique. Mais bon, comme on l'a dit, vous êtes musicien, vous êtes chef, etc. Sur l'aspect, justement, de la musique, de l'interprétation, quelle était la situation dans votre tête par rapport à ce qui existait déjà, ce qui avait déjà été fait avec la musique d'Offenbach, l'importance ou pas qu'on lui donnait quand vous vous êtes engagé dans cette passion, le rôle qu'on lui donnait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui disent « Ah, je suis fan d'Offenbach », mais qui finalement connaissent les deux, trois, on va dire, têtes de gondole, mais au fond du magasin, ils laissent parfois des trésors cachés ou oubliés.
Il n'y avait pas de fond de magasin à cette époque-là, c'est ça le problème. Non, je dois dire qu'en 20 ans, 30 ans même, oui, la situation a énormément évolué quand même, et heureusement. Et je dois le dire sans modestie que j'ai bien participé à cette évolution, avec d'autres personnes bien sûr. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai découvert Offenbach, je veux dire, il y avait d'abord une image très négative sur le compositeur, qui était petit musicien d'opérette, sans aucune envergure. Pourquoi ? Parce qu'il souffrait de deux images négatives, c'est-à-dire d'abord le French Cancan, qui n'est pas de lui, il faut le rappeler. Le French Cancan a été créé 20 ans après sa mort, donc le pauvre Offenbach n'est pour rien. Et donc ça avait cette espèce d'image de touriste japonais venant s'encanailler dans les bouches parisiennes. Bon, ça, il y avait ça. Puis il y avait Gaieté parisienne d'Emmanuel Rosenthal, qui est un travail très intéressant, mais qui est à l'opposé de l'univers d'Offenbach, qui a peut-être servi à véhiculer le nom d'Offenbach, puisque cette œuvre qui devrait être signée Rosenthal, souvent on l'attribue à Offenbach, mais pareil, c'est une orchestration, c'est pas du tout l'esprit mozartien, rossinien, originel d'Offenbach. Et donc, on avait cette idée de musique tapageuse, et puis bon, ça s'arrêtait là. Et c'est au fil des années, je dirais, c'est à partir de son centenaire, en 1980, où on a découvert des choses nouvelles. On a d'abord découvert la musique pour violoncelle. On s'est dit, tiens, Offenbach, c'est écrire des choses vraiment dans la grande tradition de Beethoven, de Schubert, choses comme ça. Et puis, petit à petit, on a découvert les œuvres rares, les Fées du Rhin, Fantasio, enfin, j'en passe, qui, justement, ont donné une autre image. Ça se fait, mais je dirais, on n'a pas avancé autant que j'aurais voulu, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui encore, je déplore, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas un festival international digne de ce nom consacré à Offenbach. C'est quand même triste.
Thank you.
effectivement, vous avez plus que reconnu, puisqu'on vient, on vient vous voir parfois. Vous avez travaillé notamment, pour, je prends un exemple avec Minkowski, sur pas mal de productions. Quel était votre rôle, par exemple, à ce niveau-là, dans ce genre de choses, par rapport justement à l'idée et l'image que les gens s'en faisaient, ce que vous avez assez bien décrit par rapport à...
Je dirais qu'il y avait deux rôles. Il y avait le rôle... le rôle visible et puis le rôle occulte des fois. Mais bon, je veux dire, Marc, ça ne cache pas, hein, on est... il n'y a pas de souci. Mon rôle visible, c'était d'éditer, simplement, de lui présenter une édition. Et puis le rôle occulte, c'était de le briefer. Parce que vraiment, et ça, je remarque, il y a une progression dans les enregistrements de Minkowski qui, moi, me satisfait en tout cas. C'est-à-dire qu'au début, L'Orphée aux Enfers, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens à mon goût. Et puis, La Grande Duchesse, je parle des opérettes, hein, enfin Opéra Bouffe, le dernier qu'on a enregistré ensemble, là, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire quelque chose vraiment de très construit. Mais on a beaucoup échangé, parce que comme dit Marc, et je en suis reconnaissant, il me dit toujours, tu n'es pas que musicologue, tu es aussi musicien. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous avez beaucoup de musicologues qui, je veux dire, n'ont aucun sens du travail musical. Ils grattent du papier, point final. Mais moi, ce que j'appréciais, c'est que, par exemple, énorme, j'ai beaucoup mis mon grain de sel dans les répétitions, dans les représentations. Et pour ça, Marc était très ouvert, je veux dire, écoutait très facilement. Donc ça, c'était très agréable. Donc il y a eu un vrai travail de collaboration qui d'ailleurs va se poursuivre, j'espère, bientôt, puisqu'on va enregistrer les Contes d'Hoffmann dans quelques mois. Et voilà, c'est prévu,
en tout cas. Est-ce que les échanges, au sens propre du terme, sont faciles quand on est un peu comme ça, un spécialiste, reconnu, vous l'avez dit, sans fausse modestie, avec, vous avez face à vous des grands musiciens, chefs ou autres, que vous respectez, avec lesquels vous travaillez, mais d'une certaine manière, vous savez que vous avez un savoir, une connaissance, etc. Est-ce qu'il y a toujours de l'échange ? Est-ce qu'on arrive facilement, parfois, à accepter la vision d'un chef, d'un chanteur, d'une chanteuse, etc., alors que vous avez des... Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des accros, parfois ?
Bien sûr. C'est très délicat. Je dirais, il y a... Je suis tombé deux ou trois fois sur des chefs vraiment extraordinaires, qui étaient des très très bons chefs, des grands techniciens aussi, des grands musiciens, et qui sont arrivés à la première répétition en me disant « Écoutez, je ne connais pas ce répertoire, dites-moi ce que je dois faire. » Et ça, je dois avouer que c'est très très agréable. Quelque part, ça peut être un peu frustrant, c'est une manière de diriger par procuration. C'est-à-dire que, mais je m'en fous, moi, personnellement. Je veux dire, mon ego peut rester derrière, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le résultat. Et là, j'avoue que j'étais content parce que, vous savez, c'est terrible à dire, mais comme je baigne dans des enregistrements d'archives, là-dedans depuis 35 ans, je me dis souvent, j'ai une espèce de connaissance de ce répertoire qui s'est transmis de génération en génération, ce que n'ont pas des chefs qui arrivent et qui d'un seul coup tombent là-dedans. En plus, avec des idées complètement préconçues, Offenbach, c'est léger, ça sautille, machin chouette, ça c'est n'importe quoi. Donc... C'est sympa de pouvoir vraiment partager avec un autre chef d'orchestre. Puis il y en a qui arrivent et qui sont bloqués, qui arrivent avec des tempi, moi, qui personnellement ne me correspondent pas. Alors je dirais, ce qui est sympa, c'est quand ils arrivent, eux, à me convaincre.
Ce que j'allais vous demander, est-ce que ça arrive parfois, justement?
Bien sûr, c'est arrivé.
Vous changez votre opinion.
C'est arrivé, je dois le dire, à Montpellier, sur les Fées du Rhin. J'étais pas du tout d'accord avec les tempi qu'avait pris le chef, qui étaient tous trop lents à mon goût. Et au bout du compte, le résultat m'a vraiment plu. Parce que moi, en fait, quand j'avais fait mon édition, je m'étais fabriqué tout un système. C'était une œuvre, il n'y avait pas de tradition derrière, c'était une création. Elle n'a jamais été enregistrée, jamais été donnée, enfin, au XXe siècle en tout cas. Donc tout était à entendre, à faire. Et je m'étais mis dans la tête d'autres idées. Et j'avoue qu'à la fin, je lui ai dit vraiment bravo. C'était extraordinaire.
Alors, dans toutes ces casquettes, on évoquait au début, il y a aussi un label, Orphée 58, que vous avez monté en 2008.
Petit label.
Petit label. Donc, évidemment, il y a du Offenbach.
Évidemment.
Étonnamment dessus. Mais il y a des choses. Enfin, il y a du Roger, par exemple. Oui. On ne peut pas dire que Roger bénéficie d'énormément d'enregistrements de sa musique discographique. Enfin, comment vous avez décidé d'abord de lancer ce label?
C'est très simple, étant donné que je ne trouvais pas ailleurs les choses, je me suis dit autant les fabriquer soi-même, parce que ça fait partie, j'aime bien les missions, c'est-à-dire mon édition, pour moi c'est une mission que je me suis confiée. Et un label, c'est aussi une mission, c'est-à-dire se dire, aujourd'hui on sait très bien qu'on ne gagne pas d'argent en faisant des disques, ça c'est...
Surtout de Roger,
j'imagine. Surtout de Roger, même d'Offenbach, je dois dire, parce que c'est pas... Enfin, ça dépend ce qu'on fait d'Offenbach, si vous faites une Xème Belle Hélène, vous avez peut-être... Mais quand on fait des choses un peu rares, c'est plus difficile. Alors toujours, je me suis dit, puisque personne ne le fait, ben moi je vais le faire. Et Roger, pourquoi? Ben, je vous parlais de mes passions. Ben, pareil, à l'âge de 15 ans, j'ai entendu du Roger, je trouvais ça extraordinaire. Il s'est passé des années et des années sans que je n'en entende plus, et en me disant ben, où est-ce que je vais me retrouver, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'épouse de Roger, qui m'a ouvert toute son studio d'enregistrement, puisque Roger enregistrait chez lui-même, il avait son studio avec tous les masters qui étaient là. Et donc, elle m'a dit, ben, on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose de tout cela pour pas que ça se détruise, quoi. Et donc, c'est un commencement. Mais là, pareil, Offenbach a écrit 650 œuvres, c'est déjà beaucoup, mais Roger, ça se compte en milliers. Donc, c'est pas tout de grande qualité, il le disait lui-même. Hein, c'est quelqu'un qui écrivait de la musique au maître, quoi. Ouais. Il écrivait des musiques illustratives. Donc, y a vraiment des choses qui sont pas très bonnes. Mais il y a des choses qui sont des chefs-d'œuvre, quoi. Ouais. Et ça mérite vraiment de ressortir. En fait, ce label.
Vous avez fixé une politique éditoriale au début où c'était un petit peu projet par projet, ou au bout d'un moment, vous vous êtes dit, voilà, je voudrais vraiment que le label, ça soit ça.
Ben, j'allais dire, c'est vaste, c'est mes passions, la politique éditoriale, donc c'est pas très... Mais non, c'est ce que j'aime. Ouais. Alors, c'est vrai, par exemple, il n'y a pas de porte fermée, c'est-à-dire, je me dis, j'aime bien aussi tout ce qui est diction, et comme j'adore Marcel Pagnol, je me dis, pourquoi pas un jour faire des... J'ai quelques enregistrements très très rares de Pagnol, des choses qui sont des bandes que j'ai retrouvées, je me dis, ben, pourquoi pas le...
Enfin, ça, édité.
Voilà, ce sont des raretés, quoi. Bon, le grand fil conducteur, c'est quand même Offenbach, Et oui, c'est ça, ça reste Offenbach.
Au très bon ordre, nous partîmes, notre drapeau flottait au vent, et quatre jours après, nous vîmes 120 000 hommes manœuvrant. J'ordonne alors que l'on s'arrête, j'avais mon plan, et j'eus 16 ans. Ce plan-là n'était pas trop bête, on a dû flair sans avoir l'air. J'avais 300 000 bouteilles, moitié vin et moitié liqueur. Je me fais, ouvrez vos oreilles, tout raflé par leur maraudeur. Voilà tout leur camp dans la joie, du vin buvant et nous grisons. Dans le vin, leur raison se noie, moi j'attendais et j'espérais. Le lendemain, bonheur insigne, ils acceptèrent le combat. Je les vis se ranger en ligne, mais Seigneur Dieu, dans quel état? Ils se répandent dans la plaine, but en roulant, déboulinant. C'était comme un grand champ d'avennes, au gré du vent se balançant. Devant son armée en goguette, le général, l'œil allumé, campanait gris comme une trompette, et me criait, ohé, ohé. Je lui réponds, viens-y, ma vieille. Tout aussitôt, le pauvre saut se fâche, brandit sa bouteille et trébuchant, marche en avant. Non, c'était à mourir de rire sur ce général folichon. 120 000 hommes en délire, chantait la mer cotichon. La 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 la. On en touchait un, tout tombé. Du reste, on n'a tué personne. C'était mal, mais c'est égal. Vos soldats ont fait des merveilles. Et le soir, c'est flatteur pour eux. Le soir, sur un champ de bouteilles, ils ont couché victorieux. Sur un champ de bouteilles, ils ont couché victorieux. Sur un champ de bouteilles, sur un champ de bouteilles, ils ont couché victorieux.
Donc vous faites il y a un travail de restauration, j'imagine, sur des pièces sûr, que vous avez, 78 tours, cylindres ou autres, non, c'est voilà. Ça
oui, alors bon, je travaille aussi avec Lina, par exemple. Mmh. Donc là, c'est eux qui font le travail de restauration. Il m'arrive de travailler avec des studios parisiens pour la restauration. Mais surtout, je me suis mis moi-même à la restauration parce que je trouve ça passionnant. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je dis ce petit label, il est vraiment... anecdotique presque, parce que c'est au gré de mon activité professionnelle, et comme j'ai quand même beaucoup de boulot entre tout ce que je fais, dès que je trouve un moment, je m'occupe du label, mais ça veut dire une sortie de temps en temps, quoi. C'est pas...
Comment vous voyez l'arrivée du numérique par rapport justement le musicologue, votre facette archiviste, etc., pour la transmission, soit sur des répertoires effectivement rares? J'imagine que quand on presse un CD de Roger pour le dispatcher dans les magasins aux quatre coins du monde.
Bon, j'ai quand même un distributeur. Hein.
J'imagine, oui.
Mais bon, mais il fait ce qu'il peut.
Comment cet aspect-là, vous le voyez par rapport éventuellement à des trésors que vous pouvez posséder, que vous seriez tenté de...
Écoutez, moi personnellement, déjà, je suis un fan de téléchargement. Je télécharge beaucoup personnellement. Hein. téléchargement payant, je tiens bien.
Sur Qobuz, évidemment.
Évidemment. Non, mais c'est vrai. Et ce qui fait que, bon, heureusement, justement, sur Qobuz, on a la chance d'avoir des livrets. Parce que pour moi, c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle pour un musicien classique, c'est qu'on télécharge et puis on n'a pas le document qui va avec. Et en tant que producteur à la radio, c'est souvent un problème parce que, bon, je fais passer beaucoup de choses que je télécharge, mais ensuite, c'est bien agréable d'avoir un livret pour avoir
surtout
quelques...
Surtout pour le classique, les livrets sont quand même assez...
Voilà, pour avoir quelques renseignements, ne serait-ce que quelques dates ou des choses comme ça d'enregistrement. Et, mais... Bon, si c'est tellement pratique quand on est dans les fonds de campagne comme moi, hop, sur Internet, allez, tout est à votre portée, c'est quand même extraordinaire ça.
Quand on est comme ça plongé dans Offenbach matin, midi et soir, est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'en pouviez plus, vous avez dit tiens, je ferais bien une pause?
Oui, ça dure à peu près une heure.
D'accord.
En gros, mais ça m'est arrivé, non, ça m'est arrivé d'avoir des saturations. Quoi, ouais. Et surtout à la fréquentation de personnes dont je vous parlais tout à l'heure, des personnes un peu qui étaient aussi acharnées que moi, au bout d'un moment, on explose, quoi, on n'en peut plus. Mais bon, c'est de courte durée. Parce que d'abord, l'œuvre est tellement immense que, bon, il y a toujours autre chose à découvrir. Donc,
Justement, sur l'immensité de l'œuvre protéiforme, vous avez dit, enfin, le nombre d'œuvres, vous avez cité tout à l'heure. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup qu'on connaît ou que le public connaît. Quelle vision vous avez aujourd'hui, après toutes ces années passées dans cette musique-là, vous plongez dedans dans les partitions, dans les enregistrements, à la diriger vous-même, etc. Quels sont les aspects, j'allais dire, de la musique d'Offenbach dans sa globalité, sont, d'après vous, mal perçus ou méconnus et qui seraient vraiment bons pour leur vraie valeur, pour leur valeur géniale éventuellement? Il serait bon de réhabiliter, autre qu'évidemment les habituelles œuvres qu'on connaît. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quand même quelques, comme ça, quelques pièces qui pour vous vraiment mériteraient...
C'est-à-dire, bon, il y a les têtes d'affiche, je dirais, mais les têtes d'affiche dans ce qui n'est pas connu. C'est-à-dire, on en a déjà fait quelques-unes, bon... On a réhabilité les Fédurins. Pour moi, c'est ma grande mission, ça. C'est ce qu'il y avait de plus important à faire. Je m'apprête à enregistrer en Angleterre Fantasio, qui est un autre chef-d'œuvre. Pour moi, le chef-d'œuvre le plus abouti d'Offenbach, plus que les Contes d'Hoffmann, tout simplement parce que c'est aussi génial que les Contes d'Hoffmann, mais Offenbach a terminé son œuvre. Il n'était pas mort avant la fin, donc on a vraiment une œuvre qui est très équilibrée. Et puis après, eh ben, Il y a par-ci par-là des chefs-d'œuvre de l'opéra bouffe qui ne sont pas du tout enregistrés, La Princesse de Trébizonde, Geneviève de Brabant, Maître Péronilla. Dans les œuvres en un acte, on a beaucoup d'œuvres en un acte qui sont tout à fait géniales. Bon, heureusement, justement, et c'est là où le label Orphée 58 a son importance, c'est que ces œuvres ont été enregistrées par la radio, par l'ORTF, avec des chanteurs qui n'étaient pas exceptionnels, mais qui étaient exceptionnellement bons pour chanter de l'Offenbach, quoi. C'est-à-dire, ils avaient vraiment ce sens que malheureusement on est en train de perdre, puisqu'il n'y a plus d'école du tout par rapport à ça, d'être autant comédien que chanteur, de pouvoir faire passer sans les voir des choses extraordinaires dans les sentiments, que ce soit des sentiments de drôlerie ou de tendresse. Et là donc, on peut restaurer, on peut ressortir des choses magnifiques de tout cela. Mais l'œuvre est immense encore à faire, puisque on a toute la musique pour violoncelle, on a toute la musique orchestrale, la musique de chambre, enfin, c'est énorme, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose sur le marché du disque actuellement. C'est, bon, il y a plus qu'il y a 20 ans, bien sûr, mais on reste quand même... j'ai du mal à comprendre, sincèrement. Par exemple, je crois qu'Offenbach, c'est quand même un produit qui marche bien. Vous sortez un Offenbach, je veux dire, ça se vend. Alors, je ne sais pas pourquoi les maisons de disques ne font pas plus de travail par rapport
surtout
à ça.
Surtout qu'on sait que dans certains genres musicaux, au contraire, la rareté plaît. En baroque, par exemple, le nombre de chefs ou musiciens plutôt connus arrive parfois, effectivement, à éditer des compositeurs oubliés ou des œuvres...
Oui. Mais ça reste pour moi un mystère. Hein. Et pourtant, Dieu sait si je me suis battu pour proposer à des maisons de disques des choses. Et ben non, ça n'avance pas beaucoup.
Sur votre label, sur Orphée 58, quels sont les quelques projets qui devraient voir le jour dans les mois ou les années à venir, on va dire?
C'est surtout cette nouvelle collection donc, qui s'appelle Trésor radiophonique, qui va reprendre... Alors, je ne veux pas faire que de l'Offenbach, justement, pour pour servir un peu aussi tout le monde, parce qu'il y a des amateurs de Lecoq, de Audran, de Planquette, enfin je ne sais pas. Mais ce sont des œuvres donc qui ont été enregistrées par les services de l'ORTF, qui sont des œuvres courtes. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans notre société qui va très vite, où les gens sont assez pressés d'en finir, c'est pas mal ces œuvres en un acte qui ne durent pas plus d'une heure. Vous proposez ça, hop, c'est un opéra, c'est entier, on a tout est dit en une heure, c'est très bien. Donc il y a toute une série d'œuvres en un acte, il y en a des centaines hein, qui sont conservées à l'ORTF, enfin à l'INA, et donc, ou alors qui viennent de collectionneurs, parce que même l'INA n'a pas tout conservé de ce qui a été enregistré à l'époque, et des collectionneurs, eux, ont conservé des bandes prises à l'époque qui, après restauration, peuvent donner de très bons résultats. Ça a été le cas d'ailleurs du premier opus que j'ai sorti, là, qui n'est pas tout à fait une opérette, bien que ça y ressemble beaucoup quand même. C'est Der Schauspiel Director, le directeur de théâtre de Mozart, qui a été créé en France par Offenbach, justement. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce... Et donc, dans cette collection, il y aura des œuvres en un acte, des opérettes en un acte, que ce soit d'Offenbach ou d'autres compositeurs. J'avais dit que j'allais en sortir un par mois, ça me semble un peu difficile. Donc, ça sera un tous les deux ou trois mois, voilà.
Est-ce que le collectionneur que vous êtes, est-ce que son téléphone ou sa boîte mail crépite de temps en temps d'un appel ou d'un mail venant de l'autre bout du monde, de quelqu'un qui vous parle de partition, de quelque chose, une rareté ? Comment ça fonctionne justement sur cet aspect-là ? Est-ce que vous-même, vous avez votre petite liste de Graal à essayer de décrocher, à retrouver, etc. Comment ça se passe ? Ou c'est vraiment le hasard, parfois tout à coup un matin, on vous apprenez, on vous contacte ?
C'est plutôt le hasard, j'allais dire quand même. Mais j'ai ma liste. Il y a des personnes qui sont bienveillantes et qui, dès qu'ils voient quelque chose passer, m'envoient un petit mail. Oui, ça existe aussi. Mais vous savez, les Graals, ils sont bien cachés souvent. Donc, quand on les trouve, c'est vraiment... Il m'est arrivé, par exemple, de trouver des choses qui étaient mal identifiées, par exemple. Je suis allé dans des bibliothèques et... alors qu'on avait identifié ça sous le nom d'un truc totalement anodin, il y avait eu un problème de classement, d'archivage. Et là, je suis tombé sur des manuscrits à New York, ça m'est arrivé, où j'ai découvert le manuscrit du ballet Le Papillon, le grand ballet qu'Offenbach avait créé à l'Opéra de Paris, et qui était archivé sous le titre Les Bergers Champiano, enfin, truc qui n'avait aucun intérêt. Et là, ça a été extraordinaire, quoi. Donc, j'ai toujours un espoir parce qu'il y a quand même des œuvres. Il me manque toujours un acte des Contes d'Hoffmann. On ne sait toujours pas où est le deuxième acte. Et puis, Orphée aux Enfers, la version de 74, enfin, le manuscrit autographe, est perdu à l'heure actuelle. Enfin, il n'est pas perdu pour tout le monde. Il existe bien quelque part. Il n'y a pas de raison qu'il ait disparu, hein. Donc je recherche. Une autre anecdote aussi amusante, par exemple, la première fois que je suis allé chez mon nouvel éditeur, donc chez Bouzet, enfin, qui avait racheté Bottes & Bock, je suis allé dans la bibliothèque pour faire un peu l'état des lieux, voir ce qu'il y avait. Malheureusement, beaucoup de choses avaient été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'arrive et puis je vois marqué le voyage de Messieurs Dunanan, père et fils, partition d'orchestre. Et Dunanan, père et fils, c'est une œuvre amusante parce que Offenbach a composé cette œuvre dans sa villa d'Étretat au moment où la villa a brûlé. Et Offenbach a pris le manuscrit et l'a jeté par la fenêtre pour pas que le manuscrit brûle avant de sortir, lui, et puis de voir sa maison. D'ailleurs, on dit, et c'est vrai, il s'est assis devant la maison sur un fauteuil pendant que ça brûlait. Et il a dit, écoutez, j'ai payé assez cher pour regarder au moins le beau spectacle. Et donc, c'est très amusant parce que je me suis dit, c'est une partition de copies quoi, ou une partition imprimée, comme on en trouvait à l'époque. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Et puis, je suis quand même allé regarder ça. J'ouvre et je trouve un manuscrit avec des roussures dessus. Des roussissures, pardon. Et c'était le manuscrit autographe de Dunanan qui était chez Bottes & Bock. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. À mon avis, il l'avait prêté à l'éditeur pour noter des choses. L'éditeur ne l'a jamais rendu. Et donc, ils avaient un trésor qui maintenant est dans un coffre, évidemment.
Et dans vos trésors à vous, est-ce que vous en avez un qui vous tient particulièrement à cœur? Vraiment, si vous deviez en sauver un, peut-être... Pas d'ailleurs un qui a une valeur.
Vous savez, j'en ai pas beaucoup, je dirais, des trésors, mais ceux que j'ai, ils me sont très très chers. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai le début et la fin, je dirais. C'est-à-dire, j'ai la partition sur laquelle Offenbach est mort. C'est-à-dire le final du quatrième acte des Contes d'Hoffmann, où ça, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et puis, j'ai une mélodie qui date du tout début des 1850, donc qui est une de ses premières œuvres, qui s'appelle « Espoir en Dieu » sur un texte de Victor Hugo. Et ce qui est très amusant, c'est qu'Offenbach s'est resservi de cette mélodie dans les Contes d'Hoffmann. Donc c'est un peu la boucle bouclée. Et puis j'ai aussi une œuvre qui s'appelle « Trafalgar sur un volcan », qui est un manuscrit complet, et qui a été qui a servi à l'ouverture de son théâtre des Bouffes Parisiens. Donc voilà, bon, après j'ai des tas de petites autres choses, mais ça, ce sont des choses qui, en plus de leur intérêt musicologique, ont un intérêt sentimental. C'est beau quand même d'avoir le début, la fin et puis le début de la carrière, quoi.
Est-ce que vous avez des enregistrements préféré de référence, si on prend les œuvres principales, que ce soit sur La Belle Hélène ou,
oui, oui, bien sûr.
Ou sur les contes d'Hoffmann.
Bien sûr, bien sûr.
Quelques-uns qui vous...
Ce qui me vient en tête, je dirais, il y a toute une série qui est chez EMI qui était dirigée par Jules Gressier. Ce sont des extraits, malheureusement, mais ce sont les principales œuvres. Il y en a 6, Orphée aux Enfers, Belle Hélène, Vie Parisienne. Et avec des chanteurs remarquables, Claudine Collard, Michel Roux, Michel Hamel. Donc ça, c'est vraiment des enregistrements qui me tiennent à cœur. Pour les Contes d'Hoffmann, une version que les gens n'aiment pas spécialement, c'est la première que j'ai entendue avec Pierre-Michel Lecomte, parce que dedans il y a un baryton qui joue les rôles des méchants, qui s'appelle Heinz Reifus, qui est le baryton suisse-allemand, qui pour moi était un des plus grands barytons de sa génération. Et bon, Fischer Dieskau vient de mourir, mais il m'arrive de préférer par exemple les Knaben Wunderhorn interprétés par Heinz Reifus que par Fischer Dieskau. Okay. Chez Heinz Reifus, il y a une espèce de générosité immense. Il n'y a pas la même technique, bon, mais il y a d'autres choses, quoi. Et bon, ben ça, je dirais, voilà, c'est aussi des... On aime bien, je crois, on se raccroche à des choses de l'enfance, de la jeunesse. Enfin, les premières choses que j'ai entendues, comme par hasard, ce sont mes versions de référence. Voilà, c'est peut-être parce que, justement, c'est lié à ça.
Bien, donc on suivra les prochaines parutions d'Orphée 58 disponibles sur Qobuz. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Merci Kek. À vous, merci beaucoup.
Rencontre. par Marc Zisman.